Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. L'ONG Global Witness, spécialisée dans la lutte contre les pillages de ressources naturelles des pays en développement, a appelé le mardi 16 avril dernier le gouvernement de la République démocratique du Congo à révoquer toutes les concessions forestières attribuées en violation de son moratoire qui interdit également l'exploitation industrielle de forêts. Pour le chargé des campagnes à Global Witness, la déforestation à RDC est essentiellement due à l'exploitation illégale du charbon des bois et de l'agriculture surbrûlée. Selon vous, que faut-il faire pour lutter contre cette exploitation illégale? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Willem Lungamba. Nico Kalambay assure la réalisation et Pierrot et la Meji, j'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Rappelons que le moratoire sur les concessions forestières a été pris par la RTC il y a plus de 16 ans passé. C'était pour lutter contre l'exploitation illégale de bois et personne ne pouvait avoir une concession forestière sans autorisation. C'était pour assainir les secteurs. Mais déjà en 2018, le gouvernement avait annoncé l'enclenchement de mesures du processus pour la levée du moratoire. Et Global Witness estime qu'il faudrait que toute concession forestière non illégale puisse être interdite. Ceci peut amener à protéger la forêt congolaise. Qu'en pensez-vous et comment on peut y aller d'une manière efficace? Vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais également au 081 890 4969 pour vos interventions en direct. Nous avons associé dans cet échange un invité avec qui on va pouvoir discuter, c'est Monsieur Mola. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des exploitants, n'est-ce pas, forestiers, des entreprises d'exploitation forestière de bois. Merci d'être avec nous dans cette émission. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, 16 ans après le moratoire, que vous qui êtes dans l'exploitation, que le problème de la coupe illégale et de l'exploitation illégale continue à se poser dans notre pays?
Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par apporter un correctif. Je suis président de la Fédération des industriels du bois.
Merci.
OK. Je voudrais qu'on puisse faire une distinction entre le moratoire et l'exploitation du bois. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Tout le monde parle du moratoire dans tous les sens, sans pour autant comprendre même la quintessence, c'est-à-dire l'esprit du moratoire. Le moratoire, c'est un arrêté ministériel. C'est le ministre de l'Environnement qui a pris ça. Et le moratoire avait une durée de 3 ans. Le but, c'était d'assainir les secteurs de l'exploitation forestière et industrielle qui avaient beaucoup de titres, des garanties d'approvisionnement, tout ça, des lettres d'intention. Et les gens détenaient des concessions pour faire la spéculation. Et on sait comment ces concessions ont été attribuées pendant la Deuxième République. Donc il fallait mettre un peu de l'ordre dans le secteur. C'est ainsi qu'un moratoire a été pris pour une durée de 3 ans. Et le moratoire était assorti des conditions, notamment 3 conditions. C'est-à-dire, la revue légale, ça a déjà eu lieu 2008-2009, c'est fini. Deuxièmement, mettre en place les nouvelles règles d'attribution il y a un arrêté ministériel là-dessus sur l'adjudication des nouvelles allocations forestières. Et la troisième condition, c'était la programmation géographique des espaces. Et c'est là où les choses traînent encore, mais sinon, il y a déjà des avancées en ce qui concerne la levée ou, si vous voulez, l'atteinte de cette condition. Alors, j'en arrive à la question de l'exploitation forestière. L'exploitation forestière en République démocratique du Congo, plus précisément l'exploitation industrielle, est régie comme toute autre activité d'exploitation forestière par le code forestier. Et le code forestier, comme vous le savez, c'est une loi qui a été promulguée depuis 2002. En plus du code forestier, il y a les mesures d'application. Ce sont les décrets, ce sont les arrêtés interministériels, les arrêtés ministériels, tout ça. Et en ce qui concerne l'exploitation forestière industrielle, il y a l'arrêté ministériel 084 qui porte sur l'exploitation forestière en République démocratique du Congo. Il faut aller dans cet arrêté, faire la lecture de cet arrêté et regarder si ce qui se fait maintenant en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'exploitation forestière industrielle est illégal. Il faut interroger ce document, cet outil de travail pour qu'on dise aujourd'hui c'est illégal ou ce n'est pas illégal. Donc, toutes les supputations en dehors de ce contexte-là juridique et réglementaire, moi je trouve ça, c'est tout simplement du sensationnel, et les gens qui produisent des rapports pareils, je peux les qualifier, pour ainsi paraphraser M. Laurent Désiré Kabila, quand il s'adressait à une clique de politiciens congolais, c'est tout simplement une kermesse des gens inutiles.
Mais vous qui êtes dans la corporation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, la main sur le cœur, que tous ceux qui exploitent le bois aujourd'hui dans ces pays, l'exploitent légalement?
Mais oui, je parle justement en ce qui concerne l'exploitation forestière industrielle. Tous les titres, il y avait au départ plus de 150 titres, je crois précisément 156, qui ont été soumis à la revue légale, c'est-à-dire à un examen approfondi, et de ces 156 titres, il n'en est resté que 57 aujourd'hui. Et ces 57 titres ont des documents légaux, des contrats de concession forestière signés et délivrés par le ministère de l'Environnement. Donc, les concessionnaires ont signé des contrats de concession forestière avec la République démocratique du Congo via le ministre de l'Environnement. Comment est-ce que quelqu'un qui est détenteur d'un titre légal et quand il exerce ses activités dans cette concession-là, on peut qualifier ses activités d'illégales? Je trouve ça vraiment aberrant. Je trouve ça très aberrant. Alors, j'aimerais qu'on avance parce que j'ai entendu tout à l'heure vous parler d'un rapport de Global Witness. Je sais qu'il y a récemment un rapport de Global Witness et puis un rapport de Greenpeace. Alors, je voudrais avoir des éclaircissements. On parle sur Global Witness ou on parle du rapport de
non, Greenpeace. Nous parlons pas. Ici, nous parlons pas du rapport de Greenpeace ou du rapport de Global Witness, mais c'est l'appel plutôt de Global Witness qui demande au gouvernement congolais de révoquer toutes les concessions attribuées en violation du moratoire, en estimant que si qu'il y a encore des concessions aujourd'hui qui ont été octroyées d'une manière illégale. C'est un appel au gouvernement congolais. Mais vous affirmez qu'aujourd'hui, il n'y a pas une exploitation industrielle illégale aujourd'hui.
En quoi le moratoire a été violé? Parce que je vous dis, tous les titres qui ont été soit jugés convertibles ou convertis, tous ces titres-là sont légaux. Il n'y a pas violation du moratoire. Le moratoire, pour l'histoire, a été pris en 2002. Il a été publié au journal officiel en 2004. Et en 2008, il y a eu cette revue légale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il fallait convertir les anciens titres forestiers qui n'avaient plus cours légal au regard de la loi, le code forestier, il fallait les convertir en contrat de concession forestière. Il y a eu une commission interministérielle qui a travaillé en 2008 et en 2009 pour faire ce travail-là. et les résultats sont là. Les titres qui sont maintenant en exploitation en RDC, ce sont des titres légaux.
Légaux, voilà. On va revenir.
On a violé le moratoire.
Ok, on va revenir à vous. Le temps d'écouter aussi les auditeurs de Radio Okapi, Arsène et Takikuit,
okay,
Christian.
Je vous en prie.
Christian Abandoundouville. Arsène, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On sait que les secteurs forestiers, oui, vous êtes un acteur du secteur forestier, ça vous intéresse beaucoup, la protection, non seulement la protection, mais aussi hein, l'usage utile de forêts. Quel est votre point de vue dans cet échange?
Bon, merci beaucoup pour la parole donnée, monsieur Pierrot. Vous savez, ce que je venais d'entendre de l'exploitant forestier, ça m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine, pourquoi? Parce que je suis en train de le considérer comme le fabricant d'armes qui fabrique des armes aux États-Unis et que nous l'envoie en Afrique pour que nous nous entretions. À quoi bénéficie le peuple congolais dans tout ce qu'ils exploitent là? Je crois que le peuple congolais est en train de perdre au lieu de gagner. Tout ça, c'est le milieu financier. Et le milieu financier, quand le milieu financier se met en action, le milieu financier oublie tout. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de perte des forêts. Nous ne sommes pas dans une situation d'augmentation de la quantité forestière chez nous. Alors, un peu d'arrogance peut tiquer aussi. Mais le rapport des protecteurs de la forêt qu'il est en train d'exploiter, il doit savoir que au demain, il y aura d'autres personnes qui chercheront à exploiter. Mais je ne sais pas si, dans leur conglomération-là des exploitants forestiers, depuis quand ils peuvent me donner, par exemple, une brousse ou une forêt qui avait déjà été détruite, qui a été replantée à plus de 10 000 hectares. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça existe quelque part. Si le ministère de l'Environnement bénéficie quelque chose de ces exploitants forestiers, dites-moi où se trouve la forêt qu'a plantée le ministère de l'Environnement, qui exploite ces exploitants forestiers. Donc, quelque part, nous devons savoir que nos forêts, c'est la vie. Nous sommes en majorité au Congo des hommes ou une nature qui vit de la forêt. Et si la forêt est mal exploitée et que les gens se lèvent pour dire non, qu'il faut revoir, pour faire des moratoires, pour donner une certaine conduite à l'exploitation forestière, monsieur, il faut beaucoup de respect. Bon, en ce qui concerne aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est voir un peu l'attitude au niveau international, au niveau de l'humanité. Que vaut la forêt? Que vaut la forêt? Ce que nous avons, est-ce que la quantité que nous devons apporter à l'humanité est la quantité que nous avons, ou faut-il encore ajouter une autre quantité? Parce que ça va contribuer à notre climat, ça va contribuer à notre vie tout entière. Donc nous devons avoir des données scientifiques et techniques qui peuvent nous permettre à donner un certain quota bien défini à l'exploitation forestière. Mais si les affectations des terres ne sont pas correctement définies, je crois que nous sommes dans la jungle où les gens qui vont venir suite à leur argent raconter du n'importe quoi. En tout cas, je m'excuse à ceux qui seront tiqués de mes phrases, mais j'encourage les à avoir plus dans le côté la quantité que nous avons et notre démographie et tout ce que nous avons comme base qui peut nous aider à augmenter la quantité forestière dans les domaines plus agricoles où nous avons des arbres fruitiers qui peuvent nous donner à manger. Nous avons des arbres industriels, par exemple les EVA, qui peuvent nous donner du caoutchouc, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je suis en train de voir les choses.
Merci.
Et que je travaille dessus.
Voilà, merci beaucoup Arsène. Vous estimez que il ne faut pas que l'exploitation tombe entre les milieux financiers et la population va perdre. Mais la grande question pour vous aujourd'hui, est-ce que les exploitants peuvent nous dire s'il y a aujourd'hui des forêts qui ont non seulement qui ont été exploitées, mais dont le reboisement a été aussi palpable et visible hein, pour éviter que demain les générations futures ne puissent manquer de forêts. Merci beaucoup Arsène. Christian, vous êtes à Bandundouville. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci Pierrot de la parole accordée. Tout à l'heure, j'ai écouté et j'ai entendu à l'invité dire que voilà, il n'y a pas une exploitation illégale et tout comme ça. Mais écoutez Pierrot et la magie. L'appel de Global Witness est parti d'un constat fait, un constat malheureux. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation illégale, alors que l'invité nous dise, est-ce que les exploitants payent-ils leurs taxes de manière convenable? Ça, c'est une question. Et puis, deuxièmement, Pierrot, ce que nous devons comprendre, toujours l'inviter à souligner le fait qu'il devrait y avoir normalement une programmation géographique. Qu'est-ce que ça dit? La programmation géographique, à mon entendement, veut dire que l'État doit définir quel est le lieu à exploiter et quel est le lieu à ne pas exploiter. Alors, jusque-là, l'État n'a pas fait cette programmation. Alors, cela, justement, profite aux exploitants. Ils exploitent mal, ils exploitent connaissant que l'État n'a pas fixé. Alors, cela a des conséquences néfastes directement sur l'écosystème. Il y a non seulement les exploitants qui exploitent, il y a également des agriculteurs. Ok, il y a également des agriculteurs. Ce comportement-là est un facteur, je dirais, beaucoup plus criminogène dans la survie même de l'écosystème, de l'environnement. Voilà pourquoi nous devons comprendre cet appel et puis agir à bon escient. Ce que nous devons faire, premièrement, c'est quoi? C'est commencer à définir les endroits où les exploitants doivent travailler. Définir également les endroits où les agriculteurs peuvent travailler. De sorte que dans quelques années, nous ayons des endroits bien spécifiques. Alors, là où les agriculteurs ou les exploitants ont eu déjà à travailler, ce qu'il faudrait faire maintenant, nous devons commencer à reboiser. Nous devons reboiser pour qu'il n'y ait pas, je dirais, pour que nos forêts ne se transforment pas à un endroit, je dirais, beaucoup plus désertique ou à un endroit, à un endroit où il n'y a pas eu grand-chose pour que ces endroits ne soient pas transformés à des vestiges. Et donc, c'est vraiment un appel à prendre à bras le corps. C'est vrai qu'il y a eu un moratoire et tout qu'on sort. Les exploitants doivent comprendre que là où les autorités ou là où la loi n'a rien dit, vous ne devez pas profiter de cette faiblesse-là pour nuire à l'État. Parce que là, vous ne nuisez pas seulement à l'État, mais aussi indirectement aux populations, mais aussi à toute l'humanité. Parce que vous êtes sans savoir que les forêts de notre pays contribuent d'une manière efficace justement à ce qui concerne la conservation de la nature, concernant les effets à gaz de serre. Donc, si nous continuons à exploiter très mal nos forêts, nous risquerons, comme dirait Hans Jonas, nous risquerons de faire, en fait, comme si nous étions en train de couper la chaise sur laquelle nous sommes assis. Donc, ça, moi, je peux dire juste que là, c'est ça.
Merci
et définir
beaucoup
les choses et que les exploitants prennent également conscience. S'il n'y a pas illégalité dans leur exploitation, eh bien, qu'ils payent leurs taxes. C'est un peu ça, ma petite contribution.
Merci beaucoup, Christian. Est-ce que les exploitants aujourd'hui payent-ils les taxes correctement et régulièrement? Mais si leurs autorisations, s'ils ont une exploitation légale aujourd'hui, mais qu'ils s'assurent de payer la taxe. Mais votre inquiétude, c'est par rapport au manque de la programmation géographique, cela est au bénéfice des exploitants aujourd'hui parce que comme l'État n'a pas délimité et c'est l'État qui perd. Et si jamais il y a cette exploitation sans programmation géographique, on risque d'avoir un problème de destruction des forêts sans reboisement. Merci beaucoup Christian. Marcel, vous êtes à Luisa au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci Monsieur Pierrot et la Mengi. C'est Marcel Didier Passois à Luisa. Nous saluons, Monsieur Pierrot, les moratoires ou l'appel de l'ONG Global Witness. C'est une question vraiment qui pique les siècles, si vous voyez vous-même, par rapport au climat et au réchauffement climatique. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de réunions avec la COP21 où la RDC était sortie avec sa forêt équatoriale. Donc, si nous n'attirons pas beaucoup plus d'attention, nous allons retomber comme ailleurs. Mais, à mon avis, Monsieur Pierrot, selon ma lecture, j'ai pensé que cette question est vraiment encore loin d'être résolue en ce moment en République démocratique du Congo, dorénavant, parce que les problèmes d'électricité restent un peu utopiques en République démocratique du Congo. Mais, je pense proposer que les reboisements restent indispensables. Voici mes petites suggestions pour que réellement on puisse respecter ce que nous prétendons avoir. Il faudrait que l'État puisse imposer son autorité. En ce moment-là, je pense beaucoup que ça sera bien. Il est également mieux de respecter les droits des populations locales qui s'adonnent à l'agriculture sur Brûlis. Il n'est pas exclu à ça. Il faut aussi que l'État collabore avec les organismes, Monsieur Pierrot et la MNG, les ONG impliquées dans la mise en œuvre de cette lutte contre l'exploitation illégale. La vulgarisation, la sensibilisation du code forestier à tous les niveaux est aussi indispensable. mais également, il faut que la justice fasse son travail par rapport pour sanctionner les récalcitrants aux principes environnementaux en vigueur. Et enfin, il aurait fallu que les ministres aussi des tutelles devraient collaborer avec l'ICSN en mettant en place les commissions de suivi nettes et non pas les commissions, plongées dans les mafias non plus, en mettant en place ces commissions pour se rendre compte du déroulement de l'exploitation des entreprises autorisées avec des licences. Voilà un peu ma petite contribution à monsieur Pierrot et la Mengé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Marcel. Vous avez aussi posé la question du droit des populations par rapport à ceux-là qui pratiquent l'agriculture sur Brûlis. Il faut un encadrement. Mais, de toutes les façons, il faut l'autorité de l'État pour arriver à encadrer l'exploitation de forêts. On va terminer avec vous, Jérémy. Vous êtes à Lubumbashi et revenir à notre invité pour commenter les différents points de vue des auditeurs. Jérémy, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour également à l'invité avec vous. Je pense que ce moratoire revêtissant bien d'une mesure conservatoire valait bien son pesant d'or, dans la mesure où au Congo on peut tout se permettre. Hein. Vous voyez quelqu'un qui se lève le matin avec une autorisation acquise de manière irrégulière et d'une assignée par les autorités du pays ou des autorités bien indiquées. La question que je me pose, Monsieur Pierrot, c'est de savoir à qui profitent ces exploitations irrégulières et forestières. Notre pays est en train de perdre toutes ses richesses dues à l'exploitation et avec la grande réduction de nos autorités. Il revient aux autorités du pays de prendre à bras le corps ces dossiers pour procéder à l'assainissement de ce secteur. Aujourd'hui, on assiste vraiment à des choses très compliquées. Vous regardez aujourd'hui, il y a le problème de réchauffement climatique. Moi, je pense qu'il est plus que temps pour que nos autorités impriment, disons, une certaine autorité pour pouvoir ramener la population ou ceux qui exploitent d'une manière irrégulière de pouvoir revenir à la raison. Au jour d'aujourd'hui, il y a aussi certaines dispositions qui amènent à ce qu'il y ait assez d'exploitations forestières aujourd'hui qui va au-delà de la mesure. Moi, je pense que, parce que pour certains, ils se disent non, c'est pour peut-être avoir du charbon, pour avoir ceci. Mais je pense que si au jour d'aujourd'hui, par exemple, l'État arrivait peut-être à mettre sur pied l'énergie adéquate, question de pouvoir toucher toute la couche du pays, je pense qu'on peut peut-être résoudre ce problème. Et il revient donc au ministère qui est en charge donc ce secteur de pouvoir imprimer sa marque d'autorité pour pouvoir arrêter un peu cette hémorragie. Je pense que ce moratoire a sa raison d'être. Et je pense qu'il revient à tout un chacun de nous de prendre conscience pour protéger notre ce secteur, question de pouvoir vivre dans des conditions vraiment très favorables. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aléas qui amènent aujourd'hui notre environnement dans des conditions vraiment très, très précaires. Tout cela passe par les déboisements ou soit des exploitations illicites. Je pense qu'il revient à tout un chacun de prendre conscience, question de protéger cette nature qui nous a été léguée, bien sûr, par l'éternel Dieu qui a aimé ce pays et qui a octroyé à ce pays tout ce qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, il y a même des pays externes, des pays, donc, c'est-à-dire des pays voisins, qui ont vraiment cette envie de pouvoir tirer profit de tout ce que nous avons comme exploitation forestière. Mais il revient à nous, en tant Congolais, de pouvoir sécuriser, conserver notre environnement parce que c'est une grande richesse que nous avons dans notre pays. On ne peut pas s'asseoir, donc on est en même temps assis sur un arbre qu'on est en train en même temps d'essayer. Nous trouvons que vraiment il y a trop d'arbitraire dans notre pays. Il revient à tout un chacun de revoir, de trouver un peu de solutions adéquates, question vraiment de remettre les choses sur orbite. Monsieur,
merci, merci beaucoup.
Si nous arrivons à mettre ça à profit, les choses iront mieux parce que avec ça, ça contribue aussi à notre développement. Comment voulez-vous, dans les temps, si nous voyons dans les temps reculés, à cette période, vous allez voir pendant la saison sèche, on assistait vraiment à une période vraiment qui change. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a toujours une chaleur exorbitante. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on ne sait pas contribuer à ce que nous devons faire pour notre nature. Et aussi, aujourd'hui, il y a carence d'eau. Cela est dû aussi parce qu'il y a les problèmes de déboisement. Il y a tous ces problèmes, tous ces aléas qui empêchent
à ce que notre pays puisse décoller quant à ce secteur.
Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Il faut une remise en question et une prise de conscience. 081-890-4969. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans ce magazine. Vous pouvez également déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Voilà, je rappelle encore que vous pouvez déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, mais également intervenir en direct en nous appelant au 081-890-4969. Et nous allons, d'un moment à l'autre, accorder la parole à notre invité. Je rappelle encore le numéro d'appel. Voilà, nous accordons directement la parole à notre invité, Monsieur Mola. Vous êtes avec nous, vous avez suivi les commentaires des uns et des autres. Quel est votre mot par rapport à ce que venaient de dire tous les compatriotes?
Merci beaucoup, Pierrot. Vraiment, c'est triste parce que le débat, on le fait, il y a des états d'âme, surtout pour le premier intervenant là. Je suis désolé. Mais c'est un débat des idées. Et il faut étayer vos idées par des arguments solides que d'assister à ce que je viens d'entendre tout à l'heure de la part de bon nombre d'intervenants. Mais ce sont des discours, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. On dirait qu'il y a quelque part une centre d'émission de ces idées. Qu'on met ça dans la tête de mes compatriotes et ils ne font que reproduire ça. C'est un discours de reproduction. J'ai réagi en disant ceci. Il y a trop d'amalgame dans ce qu'ils disent. Ils parlent tantôt de l'agriculture. Ils parlent tantôt de l'exploitation illégale. Ils parlent tantôt du non-payement des taxes. Ils parlent tantôt du reboisement. Ils parlent tantôt, mais je ne comprends pas vraiment le fondement même de ce débat où j'aurais aimé entendre des intervenants que voilà, il y a exploitation illégale dans telle concession forestière parce qu'il y a ça. Le concessionnaire n'a pas un titre légal lui reconnu par l'État. Deux, le concessionnaire tel ne paye pas ses taxes. Trois, le concessionnaire tel ne réalise pas les clauses sociales. Quatre, le concessionnaire tel coupe en dehors des normes d'exploitation forestière. Moi, j'aurais voulu entendre ça. Mais qu'on me parle de changement climatique, qu'on me parle de la nourriture, tous à tous, nous vivons de la forêt. Moi-même, je suis originaire d'une forêt. Tout le monde vit de la forêt. Moi, je crois qu'il faut élever le débat à un niveau tel que...
Alors, monsieur Mola, si vous avez suivi bien les préoccupations de nos compatriotes, parce que vous l'avez déjà...
Je vais répondre. J'ai dit ceci. La République démocratique du Congo, selon des sources, mettons à 155 millions d'hectares de forêt. Je dis bien 155 millions d'hectares de forêt. Mais la superficie concédée, c'est-à-dire ce que le gouvernement congolais a alloué à l'exploitation forestière industrielle, c'est à peine 7 500 000, si je n'exagère pas. Même pas 10%. Même pas 10%. Deuxièmement, dans les concessions forestières, je me rends compte que beaucoup de compatriotes ne connaissent pas les réalités de l'exploitation forestière industrielle dans notre pays. Toutes les concessions forestières aujourd'hui sont exploitées sous aménagement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y en a qui sont exploitées selon les plans de gestion, et le plan de gestion, c'est un plan d'aménagement provisoire, un outil de gestion de durabilité qui répartit, si vous voulez, la concession en série d'exploitation. Vous avez la série de production permanente, vous avez la série de développement local, c'est-à-dire une zone réservée aux communautés locales pour leurs activités de développement et qu'elles peuvent exploiter. Et là, on ne coupe pas. Il y a une série de protection ou de conservation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la forêt concédée, le concessionnaire qui fait son plan d'aménagement soustrait de la concession une partie de forêt qu'on juge que cette forêt a une valeur de conservation. Et dans la zone de protection, il y a des normes d'exploitation forestière où vous ne pouvez pas couper dans les zones dangereuses, par exemple le long des cours d'eau, les berges, dans les zones à pente, tout ça est prévu. Alors, moi j'aimerais, comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'on me dise que voilà, tel concessionnaire, il exploite illégalement, il n'a pas de titre, il ne réalise pas les clauses sociales, il ne fait pas ceci, cela. C'est ça le débat. Mais que les gens viennent et disent exploitation illégale, passez. Non, élevons le débat.
Alors, si vous avez suivi, monsieur Mola, si vous avez suivi le premier intervenant, il vous posait la question de savoir aujourd'hui. Parce que tous les termes techniques à l'intérieur des forêts, ça s'appartient à celui qui exploite. Toute la population n'entre pas dans les clauses pour savoir exactement quels sont les termes qui sont utilisés. Vous qui êtes des exploitants, eux, les auditeurs veulent avoir des garanties aujourd'hui. Il y a notre ami qui a parlé de la question du déboisement. Il vous a posé la question de savoir, par exemple, vous qui êtes exploitant, vous dites, oui, dans telle province, il y a telle entreprise que nous avons exploité tel endroit et on a reboisé autant d'hectares ont été reboisés parce qu'il est revenu sur la question
du
reboisement.
Vous parlez du reboisement. Voilà. J'allais en venir. Merci Pierrot. Le reboisement, en fait, mes amis. Et c'est là où je dis que les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas, ne maîtrisent pas les réalités de l'exploitation forestière. Je crois que parmi les gens qui sont intervenus, il y a quand même des spécialistes de la forêt. Moi, je ne suis pas spécialiste de la forêt, j'ai pas fait les études de foresterie. Mais tout le monde s'accorde qu'on ne reboise pas dans une forêt. Et ça s'appelle reboiser, c'est-à-dire là où il y avait du bois, il n'y en a plus, il faut mettre du bois, il faut planter. On ne reboise pas dans la forêt, dans une concession forestière. Il y a le phénomène de régénérescence naturelle qui intervient. Mais je voudrais apaiser les amis pour leur dire que qu'ils soient calmes, parce que les exploitants forestiers industriels, les concessionnaires forestiers, payent la taxe de reboisement. Je souligne, payent la taxe de reboisement. Vous pouvez aller au Fonds forestier national pour vérifier ce que je suis en train de dire. Mais la question est celle-ci. Que fait le Fonds forestier national qui a pour mission de reboiser? Que fait-il avec les fonds qui proviennent de la taxe de reboisement? Parce que la loi n'oblige pas le concessionnaire forestier à reboiser. Non, nous on n'est pas tenu à ça de par la loi. Mais la loi nous dit payer la taxe de reboisement et l'État va s'occuper du reboisement. Et nous payons la taxe de reboisement auprès du Fonds forestier national. Et je peux même vous donner le taux. 4% de la valeur FOB du bois vendu à l'étranger. Ils peuvent aller vérifier, le Fonds forestier national est ici. Donc, moi je crois que si c'est vraiment des gens qui connaissent l'exploitation forestière, ils n'allaient pas nous poser cette question de reboisement. Parce que dans la forêt, dans une concession, la restauration s'est faite d'une manière naturelle.
Ok. Et si mais il y a par exemple,
reboiser dans la forêt, voilà. Vous allez tuer toutes les essences.
Ok. Monsieur Gabriel Mola, il y a un autre ami, Christian de Bandundu, qui a dit aujourd'hui, par exemple, que cela n'est pas de votre responsabilité. Bien sûr, c'est le pouvoir public qui doit déterminer, comme vous l'avez dit, la question la question aujourd'hui par rapport à la programmation géographique, ce n'est pas à vous bien sûr, c'est le pouvoir public, c'est le gouvernement qui devait les déterminer. Et pour lui, il estime que dès lors que le gouvernement n'est pas encore arrivé à cela, ça risque de profiter ou ça profiterait aux exploitants, parce que là, on ne sait pas où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'on peut le faire, ne pas le faire.
Depuis le moratoire, il n'y a pas de nouvelles allocations forestières. On ne donne pas de nouvelles concessions forestières. On attend que l'État puisse faire cette programmation géographique, c'est-à-dire une affectation des espaces pour éviter des conflits, des chevauchements, des superpositions. Depuis 2002, 2004, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Qui se tranquillise? Il n'y a pas de nouvelles attributions, de nouvelles allocations, il n'y en a plus.
Ok. On revient à vous. On écoute Alphonse Keta Arou, bâtier ici à Kinshasa. Alphonse, merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup Pierrot pour la parole. Nous allons commencer notre intervention d'abord par présenter nos sincères félicitations à l'ONG Global Witness pour sa volonté et son courage focalisé dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles en pays de développement, parmi lesquels se trouve aussi notre pays. Il est vrai que nous venons de suivre notre invité et il veut, comme si à l'écouter dire, c'est comme s'il veut refuser l'exploitation illégale et même l'agriculture sur brûlis. Nous dirons à notre niveau que c'est vrai, cette exploitation illégale et l'agriculture sur brûlis sont la principale cause de la déforestation, même s'il ne veut pas l'accepter à terme simple là. Alors Pierrot, depuis la chute du deuxième de notre pays, certains États voisins et même d'autres continents ont suffisamment exploité la faune et la flore de notre pays. Ça, ça tout le monde le sait, y compris même certains de nos compatriotes d'une part. Et de l'autre côté, Pierrot, nos conditions de vie sont précaires. C'est ce qui fait qu'un certain nombre de personnes se déversent dans l'agriculture avec malheureusement des techniques culturelle traditionnelle, en utilisant même le feu, et c'est là où nous allons parler de l'agriculture sur brûlis, et ils vont en profiter aussi de la braise. Alors tout cela arrive, Pierrot, parce que les sociales des Congolais que nous sommes est au bas de l'échelle, mais aussi on ne tient pas compte de la vraie conservation de la nature, on ne respecte pas vraiment les lois qui prend la conservation de la nature. Mais en même temps, on a toujours dit, ou on a souvent dit que l'agriculture est priorité des priorités, mais malheureusement, c'est verbal. Et les lois de notre pays, il y en a beaucoup sur l'exploitation, ainsi de suite, mais ne s'appliquent presque pas, ou ce n'est qu'une poignée de personnes qui appliquent ça. Alors, quant à la question maintenant de savoir que faire pour lutter contre cette exploitation-là, nous proposons au futur gouvernement, parce qu'à notre avis, nous pensons que le gouvernement déjà sortant cause beaucoup de faillites. Donc, nous proposons ceci. Premièrement, il faut qu'il y ait pacification d'abord de toute l'étendue du territoire national, parce qu'il y a beaucoup de ces gens, même nos compatriotes, qui en profitent pendant l'insécurité. Deuxièmement, Monsieur Pierrot, nous voulons proposer que le futur gouvernement nous crée beaucoup d'emplois. Parce que sans emploi, nous serons obligés, qu'il y ait des lois ou pas, nous serons obligés d'exploiter pour notre survie. Troisièmement, comme notre compatriote Jérémy l'a dit, il faut qu'il y ait construction de micro-barrages aux côtés du grand barrage Inga et que ces courants soient distribués à tous les citoyens si possible pour baisser quand même la consommation de la braise. Et quatrièmement, Pierrot, je voudrais proposer au futur gouvernement d'améliorer les conditions de vie telles que prônées par la Constitution. Et enfin, Pierrot, nous souhaiterons que Global Witness ait des antennes dans les coins et recoins du pays, comme les nôtres, les territoires d'Aru, où aussi cette exploitation illégale se réalise également. Merci beaucoup, Pierrot, pour la parole.
Merci beaucoup. Vous avez abordé une partie du communiqué de Global Witness par rapport à l'exploitation de bois, l'aspect qui touche, n'est-ce pas, au charbon de bois, mais aussi à l'agriculture sur brûlis. C'est un aspect abordé par Global Witness. Mais vous êtes revenu à notre invité, mais lui, il aurait souhaité que les auditeurs lui fassent les témoignages dans leur milieu, par exemple des sociétés qui sont installés, qui exploitent illégalement. Pour lui, il estime que les sociétés qui sont là aujourd'hui ont leurs documents, ils exploitent légalement. Et d'ailleurs, il a expliqué que depuis le moratoire, il n'y a pas eu de nouvelles concessions qui ont été attribuées. Et tous ceux qui sont revenus sur la question du reboisement, il a parlé de cette taxe qui est payée au Fonds forestier national, la taxe de reboisement. Il revient à l'État congolais de pouvoir dire à la population ce qu'il fait de cette taxe. Merci beaucoup, Alphonse Batier. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi. Je dois d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent partout au Congo, à l'extérieur, ainsi que le Congo profond. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole parce que, comme l'invité, il est là pour défendre les exploitants étrangers que les pauvres populations. Moi, je voulais maintenant lui dire, comme il a demandé à ce qu'on lui donne, des preuves réelles. Parce que si on dit que la population dit que les exploitants ils exploitent dans l'illégalité, parce que d'abord, monsieur le journaliste, moi, je parle de chez moi. Moi, je suis de Tchopo. Je parle plus précisément dans le territoire de Banalia. Là, il y a l'entreprise Contrefort qui exploitent les bois là-bas, vers Alibuku. Ces gens-là, ils ont signé les contrats avec le gouvernement ainsi que la population, la communauté locale. On a signé des contrats à tripartite pour que, d'abord, avant l'exploitation, ils doivent respecter les cahiers des charges. Ils doivent d'abord construire les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, réhabiliter les routes en desserte agricole. Ces gens-là n'ont pas d'abord respecté les cahiers des charges. Ça, c'est déjà quand ils commencent déjà à exploiter sans avoir réalisé les clauses qu'ils ont signées avec les tripartites. Ça veut dire que leur exploitation est dans l'illégalité. Moi, je pense que ces gens-là doivent d'abord respecter les cahiers de charges. D'abord, ils doivent réaliser leurs promesses. Dès qu'ils finissent à réaliser les ouvrages qu'ils ont promis à la base, ensuite, ils vont exploiter leur bois. Ce qui nous étonne ici, ils parviennent même à défendre même la communauté locale d'accéder pour leurs activités. Moi, je vous dis, par exemple, dans 36 km de Kisangani à Libuku, l'entreprise là Contrefort, il va ériger même une barrière pour que les gens, les autochtones, ne puissent pas accéder facilement dans leur concession, dans leur champ. Moi, j'étais là, ils ont mis une barrière à peu près 36 km de Kisangani. Pour accéder, il faut que les gens des services de Contrefort puissent venir ouvrir les barrières. Or, la route là était existée avant qu'ils soient là. Ça, c'est quoi? C'est inconcevable. C'est-à-dire qu'ils font ça juste à l'encontre des accords qu'ils ont signés. Si vous prenez par exemple le cas du territoire de Sangui, il y a les bois verts qui existent là-bas. On n'a jamais autorisé à ce que les exploitants exploitent les bois verts, parce que jusque-là, c'est rare de trouver les bois verts. Nous avons vu l'entreprise qui a exploité les bois vers la rivière Lomami. Ils ont exploité, ils ont coupé les bois verts, qui n'est pas autorisé même pour les autochtones ici. Alors, le monsieur qui les défend, est-ce qu'il va dire ça, c'est pour l'intérêt de la population? Non. Je pense que ce sont des gens qui sont là, ils sont là, on leur donne un peu de l'argent, ils vont défendre quelque chose qu'ils n'ont pas l'information. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement qui va être là, il doit d'abord suspendre tous ces contrats qu'ils ont faits, mais qu'il faut revoir les choses maintenant. Ils doivent faire en fonction des cahiers de charges qu'ils ont signés, qu'ils réalisent d'abord l'exécution, le respect juste des cahiers de charges qu'ils ont signés avec la population. Sinon, on n'est pas content de ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est ce que je voulais juste demander, que votre invité là nous dise, qu'il nous convainc maintenant que voilà, les entreprises là, ils font ça, ce qu'ils ont déjà fait. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui n'est pas ici. Il y a même des entreprises, monsieur le journaliste, c'est vraiment déplorable. Au niveau de l'NCC de Kisangani, j'ai vu l'entreprise forestière qui exploite l'accès de Lubunga à Ubundu. Ils ont même arraché les voies ferrées qui est au niveau des ports de NCC à Kisangani pourvu que leurs perles forestiers puissent charger leurs grimes dans les barges. Ils ont arraché même les voies ferrées. C'est déplorable. Alors tu vas dire que non, ce sont des gens qui donnent l'argent, mais vraiment, c'est avec l'émotion que j'ai vu de telles choses. C'est inconcevable. Demandez à vos journalistes qu'ils passent au niveau de l'NCC à Lubunga. Il n'y a pas de voies ferrées. Aujourd'hui, même si on réhabilitait les voies ferrées de Kisangani Ubundu, la locomotive ne peut pas arriver au pied du quai parce que l'entreprise qui exploite, ils ont même arraché les rails qui étaient à côté du quai juste pour que leur pelle forestière puisse accéder. Le fait que les rails là faisaient trouer leur pneu de leur chargeur, ils ont demandé s'ils arrachent ça. C'est inconcevable. C'est déplorable. Moi, je pense qu'on doit surseoir ça. On doit surseoir ça.
Merci beaucoup.
On recommence de nouveaux contrats.
Merci beaucoup, Bathier. Et vous avez donné l'exemple de l'entreprise Contrefort, Contrefort, bien sûr, à Banalia, où vous estimez qu'ils ils continuent à exploiter, on coupe les bois verts, ils exploitent sans respecter les contrats sociaux. Ça, c'était juste pour donner un exemple, hein, comme le souhaitait notre invité. Merci beaucoup. Jean, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journal.
On vous écoute.
Oui. Ok, je voulais juste aborder, ça, c'est le même métier que mon prédécesseur, malheureusement, il a tout balayé. Moi, je dois peut-être dire au gouvernement, parce que l'entreprise Contrefort qu'on vient de citer là, il y a de 2 à 3 000 grimes qui sont ici au niveau du 18 à 18 km au Banalia. Cette entreprise est vraiment en train de faire des bonnes choses à couper toutes ces histoires. Mais nous, la population, nous ne parvenons pas à bénéficier des revenus tirés par cette entreprise. Moi, je proposerais qu'on suspende d'abord tous ces contrats, qu'on laisse d'abord tous ces grimes, dès qu'il y aura un gouvernement responsable. C'est-à-dire que l'un gouvernement qui va avoir les soucis de la population, c'est à ce moment-là qu'on doit encore occuper. Parce qu'au niveau des PK Ali Boukou, juste ici à 36 km, l'entreprise se retrouve maintenant à plus de 90 km d'Ali Boukou. C'est-à-dire l'entreprise est en train de foncer en dévastant toujours l'arbre. Moi, je proposerais de cette entreprise, parce qu'il paye quand même les reboisements. Et s'il paye, est-ce qu'il y a des spécialistes qui sont là en train de voir là où ils sont en train de les reboiser? Moi, je dirais non. Pourquoi permettre à toutes ces entreprises de couper les arbres alors qu'il y a les réchauffements climatiques qui se pointent à l'horizon? C'était ça ma préoccupation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Vous êtes à Kisangani. Vous dites que l'entreprise exploite parce que c'est l'entreprise qui a été évoquée tout à l'heure par Batier. Mais vous ne voyez pas les retombées de cette exploitation. Lui a évoqué, par exemple, les cas de non-respect du cahier des charges. Et vous avez dit qu'il faut qu'on mène des enquêtes pour qu'on se rende compte exactement si ces entreprises qui exploitent et la population bénéficient de leur exploitation. Olivier, vous êtes à Kikwit. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. On vous écoute, Olivier.
Oui, voilà. J'aimerais d'abord que l'invité ne fasse pas, ne se comporte pas comme, jugé parti, parce que c'est ce qui semble ressortir de ses paroles. Alors, il doit comprendre l'inquiétude des intervenants. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que l'industrie du bois intervient dans le PIB de la RDC pour seulement 1%. Donc, ça signifie que la population ne voit pas la contribution du bois dans le développement de la RDC. Et on aimerait que la situation puisse changer. On sait que le bois, on voit tout le monde aller à Bumba. Vous allez voir comment le bois passe tous les jours et venait dans le Kwilu. Le bois sort tous les jours, mais on ne voit pas la contribution. Donc ça, c'est une chose. Alors, une deuxième chose, j'aimerais rappeler que le moratoire n'a pas été pris seulement pour 3 ans. Le moratoire a été décidé pour qu'on trouve le temps de réfléchir sur les mécanismes qui nous permettront d'avoir une bonne gouvernance dans le domaine des forêts. Et jusqu'à aujourd'hui, justement, malheureusement, on n'a pas encore trouvé ces mécanismes-là. Et il y a un prédécesseur qui a parlé des zonages, donc ça dit que le problème géographique, là, on doit faire la programmation géographique. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, en 2016, à la COP23 à Bonn, en Allemagne, le ministre de l'Environnement a reconnu que tant qu'on ne va pas arriver à remplir toutes les conditions, on ne va pas lever le moratoire. C'est vrai qu'il a déjà dit lui-même aussi que le processus de levée du moratoire est déjà lancé, parce que vous comprendrez, M. Pierrot, que du côté des gouvernants, il y a une certaine impatience du fait que l'exploitation des forêts, ça génère de l'argent que la population ne voit pas, mais ça génère beaucoup d'argent. Alors, les gouvernants s'impatientent, ils veulent lever le moratoire. C'est pour ça que les ONG internationales interviennent pour dire attention, attention, parce qu'il y a des problèmes qui touchent toute l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour lutter contre l'exploitation illégale? Monsieur Pierrot, il n'y a qu'une seule chose. Enfin, il y a plusieurs choses. J'ai décelé 4 choses. La première chose, c'est que il nous faut des institutions fortes et démocratiques, parce que c'est un problème réel et très important, et il n'y a que les institutions fortes et démocratiques qui pourront nous aider à résoudre les problèmes.
Merci.
La deuxième chose, nous devons lutter contre l'impunité, parce que dans ce secteur-là, Pierrot, il y a des choses, il y a à boire et à manger. Alors, troisième chose, vous devez savoir que la déforestation illégale va toujours de pair avec la corruption. Donc c'est pour dire que c'est un secteur où la corruption intervient énormément pour que les gens aient des concessions, même illégales. Et la quatrième chose, la question de l'énergie. Il y a un prédécesseur qui a parlé de Inga 3. Je vous rappelle que Inga 3, l'énergie que ça va produire, les Congolais ne s'attendent pas à recevoir même 50%. Alors, on a dit qu'il y a de l'argent. Et l'argent, il y a une initiative africaine pour la forêt d'Afrique centrale qui a donné 200 millions de dollars à la RDC. Et je vous rappelle aussi que à la COP 21, après la COP 21 à Paris, on a reçu 250 millions Et jusque-là, nous ne savons pas. Donc, tant qu'on va continuer avec la mauvaise gouvernance,
ça sera difficile. Voilà. Merci, donc, merci voilà. beaucoup, Olivier. On revient à vous, Gabriel Mola. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a des cas pratiques qui ont été avancés. C'est un échange. Vous qui êtes dans l'exploitation. En bref, pour terminer et pour répondre aux compatriotes, quels sont les apaisements? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population doit savoir que les gens qui exploitent, exploitent légalement, mais aussi leur souci, c'est de voir l'exploitation leur être utile, exact. Monsieur Gabriel Mola.
Ok. Merci, Pierrot. Je remercie tous les intervenants pour leur contribution. J'aimerais apporter quelques réponses
rapidement, oui.
avec leurs préoccupations rapidement. Pour le premier intervenant, je suis heureux de constater qu'il épingle l'agriculture surbrûlée comme la principale cause de la déforestation en République démocratique du Congo. Et ça se passe de tout commentaire. Mais je voudrais aussi ajouter que l'exploitation forestière industrielle figure en dernier lieu. Il y a, je crois, 6 ou 7 causes. Et tout ça a été étayé par des études scientifiquement éprouvées. Donc, les amis doivent savoir que l'activité de l'exploitation forestière industrielle en République démocratique du Congo, c'est l'activité qui se conforme le plus par rapport à d'autres activités d'exploitation forestière, je disais qu'il se conforme le plus aux normes. Comme nous travaillons avec des plans d'aménagement, il y a pas de crainte parce que le plan d'aménagement est un outil qui garantit la durabilité de la ressource forestière. Mmh. Et ça, ils peuvent aller partout au ministère de l'Environnement, même dans les facultés d'agronomie, on organise la formation, les études en foresterie, ils ne vont pas me contredire. J'aimerais aussi dire au premier intervenant, parce qu'il a parlé de la braise, vous savez que pour la braise, résoudre le problème d'énergie bois en République démocratique du Congo, parce que nous sommes des peuples de tradition où on ne mange pas les histoires.
Oui, oui mais monsieur Gabriel, moi, parce que là, on a là qu'une minute.
50 millions de mètres cubes, alors que toute la production industrielle pour une année, ne dépasse même pas 300 000 mètres cubes. Allez-y comprendre quelque chose.
Et alors, parce qu'on doit chuter, on n'a que 30 secondes tout simplement pour conclure.
Oui, on a chuté contre fort. J'étais dernièrement là-bas, je crois qu'Alphonse de la Chope, je peux le connaître. Non, c'est pas comme ça. On a signé les clauses sous. Moi, j'ai vu des réalisations parce qu'il parlait d'Ali beaucoup.
Voilà.
Quand vous arrivez à Bébéké, il y a des centres de santé qui ont été construits et aujourd'hui voilà. qui sont transformés en habitations. Les gens n'utilisent pas ça.
Merci pour la précision.
Angeno. Quand vous voyez les réalisations de IFCO maintenant, auprès de, je crois que c'est la communauté locale qui
voilà.
a bénéficié.
Merci beaucoup Gabriel Mola. Merci Gabriel Mola pour toutes ces précisions.
Il faut organiser des émissions.
Voilà, merci. On pourra revenir vers vous pour avoir de précisions. Cela veut dire un débat où on présente les réalisations de ces sociétés d'exploitation forestière pour que la population ait des garanties et qu'elle soit apaisée. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des industriels du bois. Merci à Nico Kalambay et Willem Lungamba qui étaient à la réalisation de ce magazine. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Au revoir.